Bonjour Franck Pomares.
Bonjour.
Vous êtes le co-gérant de la ferme aquacole de la truite des Pyrénées à Lobalagnas. On va découvrir avec vous aujourd'hui cette entreprise. D'abord, peut-être présenter le cadre pour nos auditeurs, puisqu'on nous entend partout en Occitanie. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer où est-ce que nous sommes exactement?
Alors, nous nous situons dans la vallée des Gaves. On est à un bon quart d'heure de Lourdes en montant vers le cirque de Gavarnie. Donc, notre ferme est installée sur le gave de Gavarnie et avec un apport constant d'eau en permanence.
Alors, cette ferme aquacole, c'est une fondation de votre grand-père. Hein. Vous êtes la troisième génération à porter cette entreprise. Un petit brin d'histoire peut-être, pourquoi votre grand-père s'est-il installé ici pour construire cette ferme aquacole? Rapidement, un petit moment d'histoire.
Oui, alors mes grands-parents ont démarré l'aventure en 52, donc sont venus s'installer ici. Ils sont des Hautes-Pyrénées à la base, mais plutôt de la région de Vic-en-Bigorre. Et en fait, mon grand-père ne le savait pas, mais en s'installant dans la vallée, c'était un peu un coup de poker, mais il a réuni toutes les conditions pour faire de la pisciculture avec beaucoup d'eau. Nous avons la chance d'avoir beaucoup d'eau, plus de 2500 litres par seconde, et nous avons de l'eau de très très bonne qualité, sans pollution, sans rien, donc idyllique, on va dire, pour pouvoir faire un bon produit de qualité.
Il était précurseur, hein, vous me disiez avant de commencer cette émission, avant qu'il se lance lui, c'était quelque chose qui n'existait pas. Hein.
Oui, il a fait partie des tout premiers, donc effectivement, dans la profession, là, il nous a quittés cet été, et il était quand même très renommé dans l'aquaculture. Il a tout appris tout seul, sur le tas, en observant énormément les comportements de la truite, parce qu'il faut savoir que la truite vit dans l'eau, et même si nous, on essaie de comprendre, on ne vit pas avec elle, donc les comportements en disent beaucoup sur l'état du poisson.
Alors justement, ce poisson, la truite, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce poisson, peut-être ses spécificités, ses forces, ses fragilités? Qu'est-ce que c'est que la truite des Pyrénées?
Alors la truite des Pyrénées, avant tout, c'est un animal à sang froid, comme tous les poissons. Je précise ça parce que c'est notre grande différence avec les autres éleveurs, que ce soit les bovins, les porcins, les ovins, des animaux à sang chaud. Ça veut dire que moi, la truite, elle va prendre la température de l'eau. Donc l'hiver, dès qu'on est quand même dans des conditions extrêmes, avec des hivers qui peuvent être très très froids, quand on passe sous la barre des 4 degrés, on a un poisson qui va tomber en forme d'hibernation, qui va quasiment plus se nourrir. Donc il va vivre sur ses réserves. Et on peut lui jeter ce qu'on veut, elle n'est pas du tout décidée à manger. Et ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, selon les températures.
Donc la truite hiberne.
C'est une forme d'hibernation, tout à fait. Donc un peu un comportement léthargique. Et donc là, ça y est, nous, on est le printemps, ça fait 15 jours que le printemps arrive. Et on voit un poisson qui est impatient de manger, impatient de reprendre une vie.
Voilà. Vous me disiez aussi que ce poisson est un carnassier, pas un carnivore. C'est pas pareil.
Non. Oui, la truite, en fait, c'est donc ce qu'on appelle, fait partie des poissons carnassiers. Ça va manger un peu tout ce qu'il y a dans une rivière, c'est-à-dire poissons vivants, poissons morts, algues, insectes, gamars, larves, enfin voilà. Et nous, on essaie évidemment de se rapprocher au plus près de son alimentation naturelle. La truite, c'est du végétal et du poisson qu'on leur donne. En sachant que donc l'OGM n'est pas autorisé en France. Le poisson aujourd'hui, depuis 7-8 ans, il y a une énorme part du poisson qu'on leur donne issu de sous-produits et coproduits d'unités de transformation de poissons marins. Donc on récupère les têtes, les queues, etc. Mais encore une fois, c'est elle qui décide quand elle veut manger et quand elle veut grossir. Donc moi, je ne peux pas la pousser à manger, je ne peux pas la forcer. Il n'y a pas moyen d'interagir. Là, c'est vraiment en fonction des conditions. Parce que donc, quand il fait froid, elle ne mange pas. Et quand il fait très chaud, non plus. Dès qu'on passe les 20 degrés l'été aussi, elle commence un peu à... C'est un peu le même phénomène, mais dans l'autre sens.
Donc c'est un poisson qui a du caractère et c'est un poisson qui est quand même fragile. La truite est un poisson fragile.
Oui, très fragile. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on a des températures qui ont tendance à chaque année, on bat des records, malheureusement. Et on sait que la température létale pour une truite, c'est 24,5-25 en fonction de l'oxygénation. Donc ça, c'est une réalité. On est quand même dans une vallée donc des Hautes-Pyrénées, assez quand même éloignée, proche des hauts sommets. Par contre, on est quand même un petit peu inquiet pour l'avenir.
Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans une ferme aquacole? Quels sont les savoir-faire que vous déployez pour faire naître ces truites et puis les faire grossir? Comment ça se passe? Quelles sont les étapes?
Alors, il faut savoir déjà qu'une truite, c'est un temps d'élevage qui est très long, qui est comparable à un bœuf. C'est quasiment 3 années d'élevage. Donc, tout d'abord, on va faire éclore des œufs à l'écloserie. Donc, il y a une personne qui est, on appelle ça un aleveneur, qui va s'occuper des 6-8 premiers mois de la truite, de son développement et d'être au plus près, en fait, pour voir si les conditions sont bonnes pour un bon développement. Et après, on va partir sur une phase de grossissement de 1 an et demi, 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, le marché a changé. Mon grand-père vendait que des truites portions, des truites de 200-220 grammes, donc des truites entières. Après, il y a eu les petits filets qu'on faisait avec des truites de 600 grammes, des petits filets qui faisaient 120-150 grammes. Et aujourd'hui, depuis quelques années, il y a une vraie comparaison avec le saumon, vu que c'est un salmonidé, c'est la même famille de poissons. Et on a des poissons qui vont jusqu'à 3 kg, 3,5 kg. Donc, c'est des temps d'élevage qui sont longs, de plus de quasiment 3 années d'élevage. Et ça nous permet de faire de la truite fumée, de faire des œufs de truite et de faire des pavés.
Et tout ça dans l'eau du Gave, de Gavarnie.
Voilà, et tout ça toute l'année, pour que tous nos clients puissent trouver en fait les produits qu'ils recherchent toute l'année et dans notre Gave, dans notre ferme aquacole.
Alors, comment est géré justement le flux de cette eau qui vient du Gave de Gavarnie?
En fait, c'est un flux continu. On ne peut pas stopper l'eau. Donc, on a, comme je disais tout à l'heure, 2500 litres par seconde qui rentrent dans notre ferme. Et c'est permanent parce que l'eau amène l'oxygène et la truite a besoin d'eau et d'oxygène pour vivre. Donc, on ne peut pas stopper l'eau. Donc, c'est un flux permanent. Et donc, on est ce qu'on appelle sentinelle des rivières. On est très, très proche de nos poissons et de l'eau en fait qu'elles utilisent. Donc s'il y a le moindre dérèglement ou quoi que ce soit, on est les premiers en fait à le constater et voilà.
Ça veut dire que en observant le comportement des truites, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un problème dans l'eau et là alerter.
Exactement, voilà. Donc c'est effectivement de la surveillance et on observe un poisson qui est au fond de l'eau, on observe un poisson qui est en tête de bassin ou en queue de bassin. Ça donne des indications sur la qualité de l'eau. Ça peut aussi donner, si un poisson est stressé, ça peut venir aussi de la prédation aviaire. Enfin, il y a plein de facteurs de comportements qui nous permettent de voir si le problème vient de la qualité de l'eau, si ça vient de l'extérieur. Donc c'est vraiment beaucoup d'observations.
Alors, tous ces éléments qui peuvent perturber les truites, qui sont des éléments extérieurs, finalement, vous pouvez les observer, mais vous les subissez, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, en fait. Est-ce que vous pouvez les contourner?
Non, on peut pas faire grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de présence sur la ferme. Il y a des astreintes en permanence. Et c'est vrai qu'il y a des fois des éléments, des choses où on peut rien faire.
Alors, donc l'écloserie, le grossissement, la phase de grossissement, et puis il y a une autre étape, c'est celle de la transformation. Ça, c'est aussi un point important qui se passe ici à la ferme aquacole, puisque tout se passe sur place. Hein. Vous êtes vraiment, vous faites tout ici en interne à l'eau Balagnas.
Oui, en fait, depuis toujours, mon grand-père et mon père se sont débrouillés seuls. Donc, on a notre écloserie, on a notre grossissement et notre abattoir, enfin notre atelier de transformation. Mmh. Et pour nous, on essaie de livrer les départements limitrophes, donc le Béarn, Haute-Pyrénées, le Gers et la Haute-Garonne. Et en fait, on tue le poisson, on le pêche le matin très tôt, on transforme et on livre avant 11h nos restaurants. En fait, on propose un poisson qui est ultra frais et personne aujourd'hui peut, on va dire, nous concurrencer sur cette fraîcheur.
On imagine que la proximité aussi avec Lourdes et le flux des pèlerinages, des pèlerins qui veulent aussi profiter de leur pèlerinage à Lourdes pour manger des produits locaux, tout ça, c'est aussi un enjeu économique pour vous?
Oui, d'ailleurs, je dirais que c'est grâce à Lourdes et à la grotte qu'on a pu se développer. Parce que si on revient en arrière dans les années 50-60, il n'y avait pas de poisson de mer qui venait sur le marché lourdais, sur l'hôtellerie. Donc mon grand-père et ma grand-mère avaient leur plus grosse journée de vente, on va dire, se faisait du jeudi au samedi, où les hôteliers lourdais achetaient des truites portions pour nourrir, on va dire, pour faire goûter aux pèlerins de l'époque. Et c'est toujours aujourd'hui un vrai marché qui, pour nous, C'est un marché historique dans l'entreprise.
Alors nous sommes toujours à Lobalagnas en compagnie de Franck Pomares. Nous découvrons la ferme aquacole, la truite des Pyrénées. Alors on a bien compris, donc il y a l'écloserie, le grossissement, la phase de grossissement des truites et puis cette étape de la transformation avec donc ensuite cette vente directe au client. S'agissant de la transformation, on imagine qu'au cours des années, vous vous êtes un petit peu adapté à la demande avec peut-être des produits qui sont apparus.
Alors oui, bien sûr qu'on s'est adapté. Le marché a changé, a évolué. Mon grand-père n'a vendu de la truite que pour la cuire et il était assez stupéfait dans ses fins de vie de voir qu'aujourd'hui la mode c'était du poisson cru en sushi, en maquis, en ceviche, en tartare, mais aussi en gravlax. Ça fait maintenant plus de 25 ans qu'on fait de la truite fumée ainsi que des œufs. Et on a toute une gamme de conserves pour les apéros, des tartinables, on a des truitelles en boîte comme des sardines, on a des marinés pour mettre en salade, des veloutés. Enfin, on a développé, on est monoproduit, on fait que de la truite, mais on a développé une gamme très, très large et assez diversifiée pour que les touristes et même les consommateurs puissent trouver les produits qui leur correspondent.
Toutes les truites que vous vendez, vous les vendez tuées et transformées ou tuées et vidées seulement, mais vous ne vendez pas de truites que le client tue chez lui?
Non, ça c'est interdit. Ça c'est, en fait, on ne peut sortir de chez moi qu'un poisson qui a été tué. Je ne peux pas vendre de poissons vivants parce que ça c'est les piscicultures fédérales donc de l'État qui font ce travail-là. C'est pas de mon ressort.
Combien de tonnes de truites vendez-vous chaque année?
Alors, notre atelier ici, on transforme 350 tonnes localement. Alors, évidemment, depuis 10 ans, on travaille aussi sur Rungis, un petit peu à Paris, avec des grands chefs, sur Bordeaux et Toulouse, avec des grossistes. Mais quand même, notre force, c'est de vendre en direct et de livrer nous-mêmes nos truites à nos clients, poissonniers, restaurateurs, collectivités, magasins de producteurs, tout ça.
Donc vos clients, enfin vous avez une clientèle qui est quand même assez diversifiée, avec aussi certainement des touristes qui viennent ici au magasin. Enfin, est-ce que vous avez un profil un peu type de la clientèle ou est-ce que c'est tout au long de l'année un mélange?
Oui, notre force justement c'est de pouvoir s'adresser à tout le monde, aussi bien du particulier qui est de passage dans la vallée, qui veut deux filets pour manger ce soir, qui va s'arrêter au magasin, que des collectivités, un hôpital, une maison de retraite qui va me demander 400 filets, 400 truites pour un repas bien spécial. On fait même un petit peu de surgelé pour surtout l'hôtellerie lourdaise qui des fois a besoin de compléments. Donc en fait notre force, c'est aussi pour ça qu'on est encore là aujourd'hui, je crois, c'est qu'on sait s'adapter et arriver à avoir toute une multitude de clients qui font que, on l'a vu avec le Covid, la vente directe nous a sauvés en fait.
Quand on passe comme ça, comme moi aujourd'hui en reportage pour la radio, on se dit eh bien, que c'est une entreprise accomplie, qui n'a plus rien à découvrir, où tout roule et voilà, tout va bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, il y a encore il y a des défis, il y a des objectifs qu'on n'a pas encore atteints, que je voudrais atteindre dans le futur, ou bien ça roule comme ça?
Non, bien sûr qu'on essaie de se bonifier et de faire toujours plus et toujours mieux. Déjà, il faut qu'on continue à garder cette qualité. On a une équipe de personnel qui est chouette. On a des super salariés. Tout le monde est très impliqué.
Sur les salariés, vous êtes une équipe de combien? Peut-être on peut préciser ça.
On est une petite trentaine sur les trois sites, c'est-à-dire écloserie, grossissement et transformation.
Avec les savoir-faire et les compétences spécifiques pour chaque étape. Hein.
Oui, exactement. C'est vrai qu'un pisciculteur ne sait pas fileter et un fileteur ne sait pas forcément s'occuper des truites. Mais voilà, il se voit souvent et on fait tous partie de la même famille. Donc l'idée aujourd'hui, on est très sensible à l'environnement et à l'écologie. On a installé chez nous une grosse unité de photovoltaïque. On est en train d'avoir des projets pour l'huile de truite pour faire de la croquette pour chien et chat. On fait de la biorémédiation avec des cultures d'algues pour pouvoir, essayer. Aujourd'hui, je pense que le challenge de demain, c'est d'arriver à copier ce qui se fait dans la nature. En fait, il n'y a que l'humain qui pollue. Les autres animaux ou les autres plantes, en fait, se servent des déchets des uns des autres pour exister. Et nous, aujourd'hui, il faut qu'on ait un impact écologique moindre et qu'on arrive à garder cette qualité. Donc, c'est un sacré challenge. Et puis, c'est passionnant. Et après, c'est vrai qu'on est aussi, on a des défis climatiques à relever. Et ça, c'est bon, on n'est pas tout seul, évidemment, mais c'est un gros, gros challenge qui nous attend.
Oui, vous évoquez les défis climatiques. Alors évidemment, pour en tous les cas pour les auditeurs des Hautes-Pyrénées, on pense à la crue qui a eu lieu à Eas au mois de septembre. Là, typiquement, c'est un aléa climatique que vous subissez. Vous, dans vos défis pour l'avenir, vous vous dites aussi que, eh bien, faut mettre en place des choses pour que ces aléas climatiques aient le moins de répercussions possibles. Parce que quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe pour votre huître? Elle meurt?
Alors oui, on doit gérer effectivement les sécheresses, on doit gérer aussi les crues. Les crues sont de plus en plus violentes et donc c'est vrai qu'on a reconstruit une pisciculture en totalité en 2013 suite à la crue centennale. Et on a essayé de faire tout autour de la pisciculture une forme de... comme une coquille en fait, avec une digue qui pourrait nous, on pense, nous protéger pour une éventuelle crue à venir. Après, c'est tellement puissant que des fois on ne sait pas trop si nos ouvrages tiendraient en fait. Donc on est tout le temps en alerte, on est tout le temps... donc il y a les crues, il y a la sécheresse, il peut y avoir des pollutions, il peut y avoir des maladies qui peuvent arriver. Aujourd'hui, on a la chance d'être sur une rivière qui est indemne en maladies, mais on voit bien qu'il y a des maladies au niveau des vaches qui sont apparues depuis deux étés en estive, il y a des maladies au niveau des cochons qui arrivent de l'Europe de l'Est, enfin, il y a des maladies nouvelles avec ce réchauffement climatique, donc on a l'abri de rien.
Donc c'est une surveillance perpétuelle?
Exactement, surveillance permanente, constante, nuit et jour, et les week-ends et la semaine.
Alors j'ai encore deux questions avant de vous libérer. D'abord, vous m'avez dit aussi en aparté en préparant cette émission que vous étiez agriculteur, vous êtes agriculteur. Alors c'est intéressant quand même, vous êtes agriculteur, reconnu agriculteur en France, mais à l'étage de l'Europe, vous êtes pêcheur et pas agriculteur. Alors c'est une petite nuance, mais c'est intéressant de le savoir.
Nous sommes une filière méconnue et c'est vrai qu'on ne sait pas trop où nous mettre. Donc aujourd'hui, on est affilié au ministère de l'Agriculture. Au niveau, par exemple, du département, je n'ai pas de référent à la chambre agricole. Personne ne connaît mon métier. Je n'ai pas de vétérinaire dans le département qui est spécialisé dans le poisson. Et donc, par exemple, pour la PAC, qui est une aide européenne pour les agriculteurs, nous n'y avons pas droit parce que là, aux yeux de l'Europe, je suis un pêcheur, je ne suis pas un agriculteur. Donc ça fait des années que ça dure, on ne sait pas trop où nous caser en fait. On est à la fois agriculteurs, des fois certains nous considèrent comme des pêcheurs, on n'a pas de bateau.
Vous vous sentez quoi vous?
Et moi je suis profondément paysan, agriculteur, éleveur. Je suis agriculteur.
Voilà, donc tout le monde est content de manger de la truite des Pyrénées, mais pour autant vous nous dites que votre métier n'est pas assez reconnu.
Oui, on n'est pas nombreux à faire ce métier. Alors on a la chance d'avoir, on couvre quasiment tout le territoire français, donc il y a toujours une pisciculture pas loin de chez vous, un petit pisciculteur qui va proposer de la truite dans toute la France. Et ça c'est une vraie chance, parce qu'on a des cours d'eau quand même qui sont de très très bonne qualité. Et voilà, donc on parle souvent de maintenir de souveraineté alimentaire et d'aider les agriculteurs. Mmh. En achetant vos truites au marché ou en achetant des truites françaises, vous contribuez à nous aider à sauver un petit peu l'aquaculture française.
Voilà, et on rappelle qu'en France, il y a 42 000 tonnes de truites chaque année qui sont consommées.
Qui sont produites, oui. On est un gros producteur européen, mais on reste encore très, très, très petit comparé aux éleveurs de saumon. Donc voilà, on a un vrai savoir-faire français et ça serait bien qu'on arrive à le développer un peu plus.
Alors justement, ma dernière question, elle est en lien avec ça. Est-ce que c'est un métier qui s'apprend? Vous l'avez appris, votre métier, sûrement, on imagine, en observant votre grand-père, puis votre papa. Aujourd'hui, parmi la trentaine de salariés que vous avez ici à la truite des Pyrénées, ce sont des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui ont appris leur métier et qui sont venus après ou qui ont appris leur métier ici? Où est-ce qu'on apprend à travailler dans une ferme aquacole?
Alors, il y a des lycées... Où on peut faire des bacs pro et des BTS, des BTA aquacoles. Là, le plus proche d'ici, c'est à Saint-Pé-sur-Nivelle. Il y a la Canourgue, il y a Poisy. Enfin, il y a, je pense, une dizaine de lycées en France qui forment aussi bien sur la partie marine que que la pisciculture continentale. Et il y a aussi tout ce qui est aquariophilie. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, c'est un métier qui est... Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. On est, je pense, pas au début, mais on a beaucoup d'espèces qu'on doit pouvoir élever. Et il y a aussi maintenant tout le développement de l'aquaponie. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans les années à venir dans l'aquaculture.
Voilà, bien, merci beaucoup pour votre accueil, vos explications. On invite les auditeurs de Radio Présence à faire un tour ici à l'Aubalagnas, découvrir la truite des Pyrénées. Il y a le petit magasin qui permet d'acheter vos produits. Et puis, il faut quand même le dire, il y a un parcours de pêche.
Exactement, une vieille activité qui date du temps de mon grand-père qu'on a continué. Vous pouvez venir pêcher vos truites toute l'année, surtout l'été. Et donc, vous venez avec ou sans matériel et vous repartez avec vos truites.
Elles sont vidées ?
Elles peuvent être vidées si vous le souhaitez.
C'est important de le dire. Donc ça doit être super, ça, pour les enfants.
Oui, voilà, pour les enfants, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de pêcher. Enfin, on accueille tout le monde.
Et c'est ouvert toute l'année ?
C'est ouvert toute l'année. Alors là, on sort de l'hiver, le poisson a eu très froid. Et puis surtout, on a nourri quand même pas mal d'oiseaux durant l'hiver. On a toute une colonie autour de le parcours de pêche de hérons, cormorants et enfin, de pas mal d'oiseaux. Même la nouveauté dans la vallée, c'est les goélands et les mouettes qui sont remontés depuis Saint-Jean-de-Luz et qui ont dit on est pas mal ici et qui sont restés.
Et les truites sont bonnes en plus.
Voilà. Donc vous pouvez venir pêcher vos truites de juin à septembre. C'est une activité ludique et plutôt sympa.
Merci beaucoup Franck Pomares pour votre accueil et vos explications. À bientôt.
Merci beaucoup, au revoir, bonne journée.